Dans les mesures prises par l'État à l'annonce du confinement que nous vivons depuis la mi-mars, il y a la fermeture des lieux de spectacle. Toute une économie est alors touchée, mais surtout un très grand nombre de travailleurs réunis sous le statut d'intermittent du spectacle. Ces techniciens voient leur contrat s'annuler, mais disposent de leurs compétences pour venir en soutien à la mise en place d'infrastructures utiles en cette période, comme des chapiteaux qui deviennent des sas de décontamination, notamment pour la Croix-Rouge, et pourquoi pas répondre à un appel de l'État. Radio Ondaine vous propose de découvrir les actions de ces personnes rassemblées dans le collectif Intermittent Solidaire 42 par la voix de J.O., porte-parole du jour.
Alors du coup, le collectif Intermittent Solidaire 42 est un rassemblement de techniciens du spectacle, artistes, tous sous le régime de l'intermittence du spectacle, basé sur un constat qui était assez simple, qui a été fait avec des amis de Lyon, donc qui a été monté en parallèle avec le collectif intermittent solidaire du 69. Le constat était assez simple, c'est qu'en fait, nous on est sans travail depuis le 13 mars même, pour être précis. Et du coup, on a des capacités à monter des sites pour des festivals avec les infrastructures permettant d'accueillir du public dans des conditions d'hygiène convenables, avec des chapiteaux, de la distribution électrique, de la distribution en eau. Et donc, l'idée, c'était de proposer ça au pouvoir public, principalement les municipalités et les préfectures, pour leur dire que si à un moment on a besoin de sas d'accueil, si à un moment on a besoin d'hôpitaux de campagne, du coup nous on peut être présents et venir en toute sécurité mettre ça en place, et ce avec le matériel dont disposent nos prestataires qui nous suivent sur cette aventure. Ça s'est passé en plusieurs étapes. La première étape a été de faire connaître un peu cette initiative et d'enregistrer toutes les personnes du 42 et du 43, parce qu'on pilote un peu aussi le 43, qui étaient disponibles, faire un registre avec leurs compétences, donc plutôt électricité, plutôt conduite de chariot élévateur, conduite de semi-remorque. Donc on a créé une base de données avec 90 personnes pour la Loire, une dizaine de personnes pour la Haute-Loire. Donc au total une centaine de personnes avec leurs coordonnées, leurs adresses, leurs compétences et des questions un peu plus personnelles, à savoir s'ils ont des problèmes de santé qui pour pas les mettre en danger en cas d'une éventuelle exposition au Covid-19. Donc suite à ça, on a ensuite fait le tour de nos prestataires habituels, donc tous les gens qui ont le matériel requis, des chapiteaux, des toiles de tente, de la distribution électrique. Tout le monde a répondu présent de ce côté-là, donc on a fait également un fichier, un listing du matériel disponible sur la région, et ensuite on a pris notre téléphone et puis on a appelé les préfectures, les municipalités, les sous-préfectures pour leur expliquer le travail qui était mené et ce qu'on pouvait amener, en sachant bien évidemment que si on agit, c'est sur demande de l'État et qu'on ne supplée en rien une carence de leur part, c'est plutôt un renfort en fait qu'on vient apporter. Donc ça, c'était vraiment la première phase, et une fois que tout le monde a eu cette information là au sein des institutions politiques, on a commencé à regarder aussi un peu du côté du secteur plutôt social. En souffrance suite à la crise du Covid-19 pour de nombreuses raisons, la principale étant que beaucoup de bénévoles sur ces structures-là sont des personnes d'un certain âge qui du coup en confinement restaient confinées pour ne pas s'exposer puisque personne à risque. C'est comme ça qu'on a commencé à travailler avec la Croix-Rouge et qu'on a commencé à travailler aussi avec des collectifs plutôt informels sur les problématiques d'hébergement provisoire de sans-papiers. On s'est rendu compte que du coup c'était aussi des personnes touchées puisqu'il y avait plus de distribution, moins de distribution qui était faite, et que voilà, c'est aussi des personnes qui étaient confinées dans des conditions compliquées et qui ne pouvaient plus travailler, qui ne pouvaient plus avoir de vie sociale. Donc du coup on est venu un peu en renfort aussi sur ce champ-là.
Alors sur le volet de la Croix-Rouge, qu'est-ce que vous avez fait? Et puis je crois savoir que vous êtes maintenant, certains d'entre vous, bénévoles finalement à la Croix-Rouge en cette période.
Exactement. Alors du coup, la Croix-Rouge, ça s'est fait comme on travaille dans notre métier, c'est-à-dire des questions de réseau. On avait une intermittente qui était bénévole à la Croix-Rouge, qui nous a permis de rencontrer les instances dirigeantes pour la section de la Loire. Et en fait, on s'est rendu compte un nouveau protocole allait être mis en place sur ce qu'on appelle de la décontamination. Donc le terme peut être un peu anxiogène. Derrière ça se cache l'idée que toutes les denrées alimentaires qui sont mises à disposition par les supermarchés, en fait, on doit les traiter, donc enlever les emballages, nettoyer tous les fruits, les légumes avec des bains spécifiques et un protocole spécifique. Et en fait, la problématique que rencontrait la Croix-Rouge à ce moment-là, c'était une problématique de place, puisque du coup, ça doit être fait en dehors des zones de livraison. On doit vraiment avoir une zone qui potentiellement peut être contaminée et tout le reste qui doit être potentiellement décontaminé. Donc, suite à ce problème de place, on a été sollicité par la Croix-Rouge de Saint-Étienne pour venir installer un chapiteau avec de la distribution électrique et des tables pour pouvoir faire ce travail de décontamination à l'extérieur. Et du coup, en faisant ça, respecter les normes d'hygiène nationales par rapport à ça et pouvoir offrir aux personnes qui ont des colis repas, des colis alimentaires, des produits où on est sûr qu'ils soient décontaminés et du coup arrêter la diffusion du microbe à cet échelon-là. Et effectivement, du coup, au fur et à mesure, en fait, on a commencé à piloter, enfin, à être petite main sur cette décontamination-là, parce que du coup, c'était une nouvelle charge de travail pour les nombreux bénévoles de la Croix-Rouge. Et donc, du coup, pour pas déshabiller d'autres postes, il y avait un manque en termes de personnel qui s'est créé à ce moment-là. Donc, du coup, on est venu prendre ça en compte, et puis on les aide aussi sur de la ramasse. Et en gros, pour le moment, nous sommes 12 intermittents qui travaillent, enfin, qui sommes bénévoles à la Croix-Rouge tous les jours. Donc, on tourne sur deux équipes. Et maintenant, on se pose la question de l'après 11 mai. Et du coup, on a fait un petit peu le tour de nos équipes et nous serons toujours en place là-bas pour venir aider la Croix-Rouge sur toutes ces missions-là.
Pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, vous, intermittents, amis, connaissances, vous êtes mobilisés aussi auprès d'un public fragile, public sans papier, vivant dans des squats, en essayant d'apporter un peu du matériel, des denrées alimentaires. Est-ce que c'est fait d'une manière officielle? Est-ce que c'est fait par le collectif?
Voilà, bah du coup on la revendique totalement avec le collectif, parce que du coup c'est un champ d'action qu'on revendique aussi, et c'est pas parce qu'on sait faire de l'électricité qu'on doit se limiter à faire de l'électricité. On peut aussi aider en portant des choses ou en récoltant des choses. Et donc du coup on aide en accord avec de nombreux collectifs, comme le collectif de la Bourse, des occupants de la Bourse. On vient les aider sur de la distribution de denrées. Alors en fait, l'histoire, c'est que du coup, on a commencé à en parler avec la Croix-Rouge, puisqu'on était là-bas présent de manière assez récurrente. Et en fait, on s'est rendu compte que les veilles de week-end, par exemple, les produits qui arrivaient en date de péremption ne pouvaient plus être distribués le lundi, puisqu'ils allaient arriver en péremption. Et s'ils n'avaient pas été distribués aux allocataires réguliers, en fait, ils nous ont autorisé à les prendre et à les distribuer dans divers lieux d'hébergement provisoire. Donc, on a commencé à mettre en place ce système-là de distribution. Et avec les copains des brigades solidaires de Saint-Étienne, qui, eux, organisaient des collectes, on a commencé à s'entendre sur les choses qui pouvaient nous manquer dans ces lieux-là d'hébergement et que eux pouvaient récupérer. Donc maintenant, on a un fonctionnement qui nous permet aussi de récupérer autre chose que des denrées alimentaires, mais des vêtements, des jouets, et les redistribuer pour les enfants et les occupants de ces lieux provisoires et en situation de crise.
Alors du coup, la situation est aussi compliquée pour vous, intermittents. Tout le monde voit que finalement, les festivals d'été n'auront pas lieu. On est toujours dans l'interrogation de la reprise des événements accueillant du public à la rentrée. Qu'en est-il de ta situation et puis celle des membres du collectif au niveau de l'intermittence et surtout des annonces qui sont faites ici et là? Qu'est-ce qui vous attend finalement?
Alors, du coup, comme tu le disais si bien, nous, on en a arrêt de travail de manière définitive, enfin, de manière pas définitive, je l'espère, mais de manière ferme, en tout cas, à partir du 13 mars, puisque ça faisait écho à l'interdiction de rassemblement au-dessus de 100 personnes. Donc, à partir de ce jour-là, notre activité est restée stoppée. Suite à l'annonce du président de la République le 13 avril dernier, il annonçait une interdiction des grands rassemblements jusqu'au 15 juillet. Donc du coup, on a eu énormément d'annulations. Donc moi, pour ma part, je devais travailler sur les Francopholies de Tignes qui ont été annulés, sur le festival Port les Musiques à Saint-Étienne qui a été annulé, sur la fête de la musique de Saint-Étienne qui est annulée. Et là, je viens d'apprendre à l'instant, juste avant notre appel, l'annulation également du Forestival à Trelin, prévu début août, son report en 2021. Donc effectivement, ça nous fait beaucoup, beaucoup de gros chantiers. Nous, c'est une période de travail sur lequel on fait 80% de notre statut sur la période juin, juillet, août, septembre. Donc, grosse incertitude. Quant à l'avenir, notre système, pour ceux qui ne le connaissent pas ou peu, consiste à cumuler 507 heures de travail déclaré. J'insiste sur le mot déclaré. Il y a du travail qu'on fait à côté pour de la préparation, des choses comme ça qui ne rentrent pas en compte dans ces 507 heures. Mais en gros, on a 12 mois pour cumuler ces 507 heures. Et vu que la plupart d'entre nous, on a tendance à les faire plutôt sur l'été, sur les périodes des festivals qui embauchent beaucoup plus de monde, et également un petit peu sur l'année sur les salles, donc sur la période mars, avril, mai, juin. Du coup, c'est très problématique parce qu'on a des dates anniversaires qui arrivent. Donc on est tous, chacun a une date anniversaire personnelle. Mais voilà, il manque des heures à tout le monde. Donc à certains plus que d'autres en fonction de leur activité, comme vous avez pu travailler un petit peu avant. Il y a eu quelques annonces du gouvernement et de notre ministre de la Culture qui ont été faites dans le sens de neutraliser la période de confinement, mais ça nous convient pas du tout, parce que certes, on n'a pas pu travailler pendant la période de confinement, mais ce qui va se passer, et là-dessus on n'est pas dupe et personne ne l'est, c'est qu'on sait très bien qu'on sera la dernière activité sur les grands rassemblements à pouvoir réexister, et ce qui est normal, puisque du coup, vachement plus enclin à favoriser la pandémie. Donc voilà, nous, ce que nous revendiquons, que ce soit les intermittents de l'audiovisuel, du théâtre ou de la musique actuelle, c'est le gel, une année blanche, c'est-à-dire que du coup nos droits repartent pendant un an et ça nous laissera le temps de refaire nos heures dans des conditions correctes. Donc on tend vraiment là-dessus. Après, je tiens à le signaler, c'est un travail qui est fait par les syndicats et par les collectifs informels pour les intermittents. Mais la question se pose aussi, et on ne lâchera pas l'affaire aussi pour les copains qui sont dans d'autres situations que nous, non intermittents, mais chômeurs, donc tout ce qu'on appelle les emplois précaires. N'oublions pas que la réforme concernant l'assurance chômage a été uniquement décalée au mois de septembre, mais c'est également tous ces gens-là qui travaillent sur des petits contrats pour plusieurs employeurs, certains dans le spectacle, d'autres dans l'hôtellerie, d'autres dans la restauration, qui se retrouvent dans la même situation que les intermittents aujourd'hui. Et nous, on a encore la chance d'avoir ce système d'allocation qui nous permet, sur les semaines à venir, de pouvoir vivre et acheter à manger. Il y en a déjà sur le chômage qui arrive en fin de droit. Et voilà, le combat sera global pour les intermittents, mais également pour tous les précaires.
Vous avez proposé en tant que collectif vos services aux institutions, aux représentants locaux de l'État. Est-ce que là, vous avez eu des sollicitations et des réponses finalement à ce que vous proposiez de par les municipalités ou encore la préfecture ?
Alors du coup, au niveau des retours qui nous ont été faits, c'est que tout le monde a bien pris en compte le plus qu'on peut amener. Mais à l'heure actuelle, le besoin n'existe pas. Pas encore en tout cas. Donc du coup, ils se réservent le droit de nous réquisitionner, puisque c'est le terme adéquat au niveau de la préfecture, si besoin. On a eu la chance, la grande chance même, de pas être arrivé en saturation trop excessive sur les centres hospitaliers pour devoir créer d'autres centres hospitaliers annexes en hôpitaux de campagne. Donc pour le moment, les ressources internes de l'État gère très bien la situation là-dessus sans notre aide. Donc du coup, nous, on reste en réserve, un peu comme des réservistes là-dessus. Mais le collectif, on l'a monté également en national avec 22 antennes aujourd'hui. Et en fait, on se rend compte que sur d'autres antennes, notamment l'Ardèche ou la Drôme, il peut y avoir des réquisitions de la préfecture qui commencent à se faire sur d'autres choses, notamment concernant les EHPAD, pour créer des lieux dans lesquels les résidents d'un EHPAD pourraient rencontrer leur famille, dans un lieu qui serait extérieur à l'EHPAD, à proximité immédiate, mais extérieur pour éviter les risques de contamination sur l'établissement. Donc voilà, là-dessus, il y a des choses qui sont en train de bouger, c'est quelque chose sur lequel on peut répondre de manière assez réactive, puisque du coup, on a déjà monté des schémas pour ça, sur de la protente et des praticables, pour pouvoir créer des espaces, des sas de 5 mètres par 5 mètres, en maintenant les distances de sécurité, et pouvoir se rencontrer, que les familles puissent rencontrer les aînés dans un lieu sécurisé et en essayant de le rendre agréable aussi et pas anxiogène.